Je vous invite, frères et sœurs, à écouter la lecture de la Bible. Nous ne ferons qu'une lecture ce matin, celle du psaume 42. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je veux laisser revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu, avec la foule en fête, criant à Dieu sa reconnaissance et sa joie. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Au lieu de me désoler, je veux m'adresser à toi, ô Dieu, de l'endroit où je suis, aux sources du Jourdain, près du Mont Petit, dans les montagnes de l'Hermon. Tu fais gronder les torrents, un flot en appelle un autre, tu les fais tous déferler sur moi, je suis complètement submergé. Que le Seigneur me montre sa bonté le jour, et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. Je veux dire adieu à mon rocher. Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi me laisses-tu ainsi avec des ennemis qui m'écrasent? Me voilà complètement brisé par leurs insultes, quand ils me disent sans cesse, « Où est ton Dieu ? » À quoi bon me désoler ? À quoi bon me plaindre de mon sort ? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite à chanter dans le recueil Louanges et prières le cantique numéro 72, la première, la deuxième et la troisième strophe de ce cantique 72. Éternel, accorde-moi le silence, non pas le silence qui me rend prisonnier de moi-même, mais celui qui me libère et m'ouvre des espaces nouveaux. Non pas le silence de l'absence vide du monologue solitaire, mais celui de la rencontre, de l'intimité en ta présence. Non pas le silence de la nuit ou du désespoir, mais celui qui attend la lumière de l'aurore et celle de l'espérance. Le silence du cœur qui écoute le murmure de ton esprit qui éclaire pour nous ta parole. Chers frères et sœurs, chers amis, l'auteur du psaume 42, exilé probablement en Babylonie, persécuté par ses ennemis, entend ces derniers lui dire à travers des moqueries et des railleries « Où est ton Dieu ?» Ce qui signifie « Que fait-il ?» Pour toi, où est Dieu? Que fait-il pour nous? Ce cri n'est-il pas bien souvent celui des victimes, des guerres, des injustices, de la faim dans le monde, de ces épouvantables cataclysmes naturels? De deuil, où l'on a perdu un être cher dans la force de l'âge, où un être aimé encore tout jeune, riche de promesses et d'espoir. Oui, où était Dieu? Que faisait-il alors? Et tant de soupirs dans les hôpitaux, de solitude, de silence. Ne nous est-il pas arrivé à nous-mêmes, dans une heure douloureuse et tragique de notre vie, de nous dire « Où est Dieu ? Existe-t-il vraiment ? » Ne nous est-il pas arrivé de reprendre à notre compte la prière de Jésus sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui n'est peut-être pas la prière du désespoir puisqu'elle s'adresse à Dieu, mais celle d'une terrible et profonde détresse humaine qui nous permet de reprendre cette prière à notre compte. Dans les camps de la mort, que de fois cette plainte n'a-t-elle pas habité Le cœur des victimes de l'horreur n'a-t-elle pas été sur leurs lèvres? Que fait Dieu? Où est-il? Et c'est l'Alexandrin d'Alfred de Vigny qui revient alors à notre esprit, mais le ciel reste noir et Dieu ne répond pas. Qui peut encore dire Dieu tout simplement, comme si de rien n'était, après Buchenwald, après Auschwitz? La romancière britannique Virginia Woolf écrit ces mots cruels: il y a quelque chose d'indécent chez celui qui, assis près du feu, croit en Dieu. Où est Dieu? Il est dans nos appels. Il est dans nos cris de détresse. Il est dans nos révoltes. Et j'ai souvent cité ce titre d'un petit livre du pasteur Roland de Pury, Job ou l'homme révolté, pour vous dire qu'on pourrait écrire le même livre en lisant les évangiles, Jésus ou l'homme révolté. Jésus qui lutte contre le mal, contre les souffrances, contre les injustices. Et j'aimerais pour ma part écrire un jour un livre qui s'intitulerait « Dieu ou le Dieu révolté, le Dieu des révoltes ». Ce Dieu qui lutte à nos côtés, non pas dans des révoltes négatives, nihilistes, mais pour faire triompher la vie sans cesse contrariée par des puissances de mort. Dieu n'est pas le tout-puissant de nos désirs, de nos fantasmes. Il n'est pas à notre disposition. Théodore Monod me disait un jour, à la sortie de ce temple, après avoir écouté une très belle prédication sur la souffrance des innocents, sur le problème du mal, il me disait: mon père affirmait, donc le pasteur Wilfred Monod, qui a été pasteur pendant des années de cette église, mon père affirmait: Dieu ne nous protège pas de la foudre, mais il est avec nous et nous protège quand nous sommes abattus et foudroyés. La foi devient un quand même, un malgré tout, un malgré nous. Le théologien catholique Maurice Bellet, théologien contemporain, dont les livres ont souvent des accents poétiques, mystiques, affirme ceci en 1956: le seul Dieu que nous pouvons supporter désormais, ce n'est pas le Dieu des hauteurs, c'est le Dieu qui est avec nous dans les ténèbres. Si Dieu est, il est en l'homme, ce point de lumière que rien n'a puissance de détruire. Et puis, et ce sera la deuxième étape de cette prédication qui comportera trois moments, où est Dieu ? J'aimerais évoquer ici deux ou trois réponses traditionnelles et classiques. Il y en aurait beaucoup d'autres. Réponse à cette question. Premièrement, Dieu est au ciel. Et dimanche après dimanche, voire jour après jour, nous reprenons la prière universelle des chrétiens, notre Père qui es aux cieux. Bien sûr, il y a longtemps que l'on a démythisé une telle expression. Et pourtant, j'aimerais faire à son sujet trois remarques. D'abord pour dire que les premiers témoins de la Bible, les premiers chrétiens pendant des siècles, quand ils disaient de Dieu qu'il est au ciel, n'utilisaient pas du tout une image. Il pensait, compte tenu de la conception du monde d'alors, que Dieu était véritablement au ciel. On se représentait le monde en trois étages, le ciel, la cour céleste, la terre et au plus profond, les enfers. Il me semble qu'il y a là une suggestion pour nous, à savoir que tant que faire se peut pour dire un Dieu crédible, nous devrions accorder, nous aussi, notre manière d'exprimer Dieu avec les visions de la culture contemporaine et de la science. Deuxièmement, il ne s'agit pas seulement de démythiser la Bible, c'est-à-dire d'en retrancher ce qui gêne notre raison et de la censurer, fût-ce au nom de la raison scientifique. Il s'agit plutôt de la démythologiser. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, il nous faut inscrire les textes bibliques au cœur de leur signification et dans l'ordre de la foi. Et hier, comme aujourd'hui, quand on disait de Dieu qu'il est au ciel, on voulait dire quelque chose de vrai, à savoir que Dieu n'est pas à notre disposition, que nous n'avons pas prise sur lui, qu'il nous échappe, qu'il est ce qu'on appelle la transcendance. Et puis troisièmement, il y a quelque chose de très stimulant dans cette invocation « Notre Père qui es aux cieux ». Parce qu'il y a dans cette demande un paradoxe fécond, dynamique, puisque nous disons en même temps et avec Jésus que Dieu est inaccessible, qu'il est au ciel, et en même temps le contraire, à savoir qu'il est tout proche, puisque nous l'appelons notre Père. Une deuxième manière de répondre, c'est de dire où est Dieu. Dieu est dans la nature. On affirme là un certain panthéisme plus ou moins radical. Certes, la beauté de Dieu rejoint, diront certains, au cœur de leur foi, la beauté des paysages, la beauté de la nature, la beauté de certains éléments de la nature, et alors on peut voir dans cela comme un reflet, comme un miroir, ou tout au plus comme une image de la gloire de Dieu. Mais attention, la nature n'est pas idyllique. Elle est en général la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort. Elle met autant d'ingéniosité à susciter la vie qu'à la détruire. Et là encore, Wilfred Monod insistait sur ce drame qui veut que la vie se nourrisse forcément de la mort des autres, puisque pour vivre, il nous faut tuer des animaux, des végétaux, qui eux aussi sont des prodiges de vie. C'est pourquoi Wilfred Monod disait « Finalement, le lion, c'est de la gazelle digérée, et la nature est un vaste tube digestif. » Et il parlait dans ses prédications très souvent de cet entremangement, c'est ainsi qu'il l'appelait, des êtres sur cette terre, évoquant jusqu'aux profondeurs des océans où pour vivre se passent des combats sanglants. Eh bien, voyez-vous, le fait que nous soyons dans cette mécanique implacable, machine infernale, me fait beaucoup douter du Dieu créateur. Le créateur aurait-il voulu cette horreur, lui, le Dieu d'amour, à savoir que la vie se nourrit de la mort des autres. Et en l'occurrence, je suis en bonne compagnie. Je vous cite Albert Schweitzer. Nous osons avouer, écrit-il, nous osons avouer que les forces agissant dans le monde sont à bien des égards différentes de celles que nous attendrions de la part d'un Créateur bon et parfait. Et un peu plus loin, la religion n'est pas la connaissance du divin révélée par l'observation de la nature. L'énigme de la religion, c'est que le Dieu que nous ressentons en nous-mêmes est différent du Dieu révélé par la nature. Cette dernière n'a pas à être divinisée. Et le dynamisme du Dieu créateur traverse, sans cesse contrarié en nous, dans ce monde, dans la nature, traverse tout cela pour surmonter des forces de destruction. Certes, Dieu n'est pas étranger à sa création, comme on l'appelle, sa création. Il y a une parenté entre Dieu et le monde, mais ce n'est pas une identification d'un panthéisme trop radical. Et plutôt que de parler d'un panthéisme, à savoir Dieu est dans tout, il nous semble le plus sage de parler d'un panenthéisme, ce qui signifie non pas que Dieu est dans tout, mais que tout est en Dieu. Tout est fondé, tout est enraciné en Dieu parce qu'il est l'être des êtres dont l'esprit, dont le souffle créateur nous anime et nous porte. Et puis, une troisième réponse très commune qui peut paraître élémentaire, et pourtant, elle traverse toute l'histoire des religions. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu réside dans des lieux sacrés. Les temples égyptiens, les temples grecs, les temples romains, le temple de Jérusalem, c'est bien ce que dit le psalmiste au psaume 42, il aimerait tellement aller au temple de Jérusalem pour y rencontrer de nouveau son Dieu, et il appelle ce temple, comme très souvent dans la Bible, la maison de Dieu. Calvin, le réformateur, au XVIe siècle, voulait que l'on ferme les temples en dehors des cultes. Parce qu'on avait pris l'habitude d'aller d'une église à l'autre et dans les églises d'une chapelle à l'autre pour y faire des dévotions, convaincus que nos prières, que nos oraisons auraient plus de poids en présence du Dieu qui était là. Le pasteur Michel Leplay m'a raconté l'anecdote suivante. Il devait participer dans une église de nos campagnes à un mariage religieux et compte tenu de la configuration des lieux, il demanda au prêtre quelle attitude il devait adopter en passant devant le tabernacle. Ce petit coffre fermé à clé dans lequel se trouvent les hosties, qui sont au bénéfice du miracle, de la transsubstantation, qui veut que Jésus, le Dieu de Jésus-Christ, soit présent dans ces hosties. Et vous savez que ce tabernacle est souvent indiqué dans les églises par une petite lumière rouge. Et il vit le prêtre se diriger vers le tabernacle, éteindre la lumière et lui dire « Monsieur le pasteur, j'ai éteint la présence réelle. » Alors le pasteur le plaît de lui répondre « Au moins nous restera-t-il celle de la parole. » Dieu n'est pas dans le pain et dans le vin de la scène. Dieu n'est pas dans la Bible. Nous ne pouvons pas confondre la Bible avec la parole de Dieu, parce qu'il y a tant de pages abominables, monstrueuses, dans la Bible, très éloignées du Dieu de l'Évangile. Il nous faut, pour les comprendre, adopter, et c'est la seule attitude possible, une lecture de ces pages historico-critiques pour les resituer dans leur contexte. Nous ne pouvons pas enfermer Dieu dans des lieux, dans des institutions, dans des doctrines, dans nos mots. Et c'est la tentation permanente de l'histoire des religions de vouloir figer, fixer Dieu, le mettre sous nos emprises. Même si, et je suis prêt à le reconnaître, les églises peuvent être pour nous des lieux propices à un moment de silence, de méditation, de recueillement, de prière au cœur de nos journées. Et puis, et ce sera la troisième étape, et j'aimerais l'introduire par une parole de Raphaël Picon, le doyen de la faculté de théologie protestante de Paris. Je discutais avec lui du thème de cette prédication et il m'a dit: Dieu n'est nulle part, mais potentiellement partout. Potentiellement, pas il est partout. Alors je repense à Matthieu 6, verset 6, ces paroles de Jésus. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et puis j'entends cette injonction apparemment absurde de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Thessaloniciens, qui est jusqu'à ce jour le plus ancien de tous les écrits chrétiens connus. Paul qui leur dit à ces Thessaloniciens: « Priez sans cesse ». En fait, il veut dire: vous pouvez prier n'importe quand et n'importe où, il n'y a pas des temps sacrés, il n'y a pas des lieux sacrés. Il opère là une désacralisation absolument remarquable. Et puis j'évoque un autre texte, peut-être plus discutable, dans la Genèse, au chapitre 28, c'est l'histoire du songe de Jacob, qui dans son rêve voit une échelle reliant le ciel et la terre, et des anges qui montent et descendent. Et à son réveil, le texte nous dit: Jacob s'éveilla de son sommeil et il déclara: certainement l'Éternel est présent dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Eh bien, j'aime beaucoup ce verset parce que c'est le premier auquel j'ai consacré la première prédication de ma vie il y a environ 55 ans. Et qu'est-ce que je disais là? Je disais, en insistant sur « et je ne le savais pas », que Dieu est inattendu, qu'il y a ce potentiellement présent. Il n'est pas nécessairement là où nous pensons, là où nous le voudrions. Il n'est pas, comme je l'ai déjà dit, à notre disposition. Dieu est un Dieu inattendu. Et nous pouvons entendre la parole d'un athée qui nous conduira à l'Évangile et qu'on entendra comme une parole de Dieu, parce que les athées, le plus souvent, ne nous reprochent pas d'être chrétiens, mais de ne l'être pas vraiment, tandis que nous pouvons ne pas entendre Dieu dans les doctrines perpendiculaires de certains dogmaticiens chrétiens et bien-pensants. Où est Dieu? Le Nouveau Testament répond: en Jésus. Nous le disions dans la confession de foi tout à l'heure, nous regardons à Jésus pour savoir qui est Dieu, mais aussi qui est l'homme. Mais le Nouveau Testament répond surtout: Dieu est en nous, Dieu est en vous, Dieu est en toi. Et dans sa première épître aux Corinthiens et dans sa deuxième épître aux Corinthiens, Paul affirme: vous êtes le temple de Dieu. Et aussi, nous sommes le temple de Dieu. Parole révolutionnaire quand on sait que ses interlocuteurs pensaient que Dieu est présent justement dans le temple. Paul venait leur dire, parole révolutionnaire, le temple de Dieu, c'est vous. Et cette conviction qui nous anime entraîne deux conséquences considérables. Cette conviction dit notre dignité. Dieu est en nous. Nous ne sommes pas, comme me le disait une chère paroissienne de l'oratoire, à l'issue d'un culte, nous sommes des créatures nulles devant Dieu. Eh bien non, nous ne sommes pas des créatures nulles devant Dieu. Nous ne sommes pas réduits au néant de notre condition mortelle, au néant de notre condition pécheresse, ou à notre finitude. Dieu est en nous. Au moment douloureux, tragique de notre vie, il est bon de se dire « Dieu est en moi ». Il m'aidera. C'est une parole apaisante, réconfortante, encourageante. Il m'aidera à traverser les tempêtes et les gouffres. Et puis, deuxième conséquence, si Dieu est en nous, il y a en nous une force, un élan, une mise en marche, des possibles insoupçonnés qui s'ouvrent. N'ayons pas de fausse humilité. Le Dieu de l'Évangile est en nous et par conséquent, il agit en nous, il agit par nous. L'auteur de l'épître de Jean, la première, affirme « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Tout geste d'amour, tout geste d'attention généreuse, de bienveillance, de combat pour la justice et les moins favorisés, tout geste de la sorte est un geste divin parce que Dieu est là. J'aimerais conclure cette prédication par une citation de Maurice Zundel. J'aime beaucoup citer Maurice Zundel. C'est un prêtre suisse, du XXe siècle, il est aujourd'hui décédé, qui, jugé hérétique par son évêque, l'évêque de Lausanne, fut heureusement condamné à devenir un prêtre itinérant, un missionnaire, prédicateur, conférencier, habitant ici ou là. Il a habité très longtemps au Caire, il parlait l'arabe. Maurice Zundel écrit ceci: oublions toute notre négativité, toute notre lourdeur, toute notre fatigue, toute notre usure, toutes nos limites, toutes les limites des autres, qu'importe, tout cela, puisque Dieu est en nous. Amen.